commencer par définir quelques termes. Premièrement, le mot millénium, qui vient de deux mots latins, mille, qui veut dire mille, hein, et un homme, qui veut dire an, mille ans. Comme ça, quand quelqu'un dit millénium, il est en train de dire mille ans, tout simple, tout court. C'est un terme théologique qui a sa base dans l'Apocalypse chapitre 20. Nous allons regarder ce terme un peu plus tard. Et l'idée ici, c'est un règne de mille ans. Et c'est ça finalement la discussion, car il y a un passage dans l'Apocalypse qui parle du fait que Christ va régner pendant mille ans. Dans le livre des Actes des Apôtres, verset 1, chapitre 6, on trouve ici la question demandée. Les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et dans la pensée du millénium, le mot millénium devient synonyme avec le mot royaume. Si vous êtes pré-millénialiste, si vous êtes post-millénialiste, si vous êtes amillénialiste, c'est pareil. Le mot millénium et le mot royaume sont synonymes. Comme ça, c'est le règne du Christ, son royaume. Et ça, c'est la première base. Il y a trois idées dans ça, le post-millénium, et on ne va pas en discuter parce que maintenant il n'y a presque personne qui y croit. Le pré-millénium, qui est le pré-millénialisme, ce qu'on entend parler souvent, et l'autre, le amillénialisme. Et ici, l'idée du pré millénialiste veut dire que nous sommes avant le millénium. Comme ça, quelqu'un dit « Je suis pré-millénialiste », il est en train de dire « Je crois que nous sommes avant le royaume ». Quelqu'un qui dit « Je suis amillénialiste », il est en train de dire « Moi, je ne crois pas dans un millénium hors du royaume qui est maintenant, qui existe, c'est-à-dire que le royaume existe déjà. Une question encore d'établissement de royaume et de définir cela. Un livre que je voudrais bien vous déconseiller, c'est L'agonie de notre vieille planète, publié originalement aux États-Unis par Al Lindzeich. C'est à peu près le livre qui est le plus responsable pour la propagation de cette théorie parmi les églises évangéliques. Tirage, déjà à l'époque, quand elle est imprimée, c'est sûrement le premier tirage ici en France, 1974, à 4 millions. Comme ça, vous imaginez, déjà, parmi les gens qui lisent des livres bibliques, c'est pas tout le monde qui en achète. Hein? Quand est-ce la dernière fois que vous êtes allé à la librairie acheter un livre biblique? Bon, c'est pas tout le monde qui en achète. Oui? Qu'est-ce que... Ah, L'agonie de notre vieille planète. Je la déconseille, hein? Entièrement. Je suis archi contre ce livre. Il était publié en anglais et un frère a écrit une réfutation de ce livre, Le royaume de Dieu et la planète Terre. L'idée de la planète Terre, car la planète Terre, c'est le nom donné en anglais, The Late Great Planet Earth. Comme ça. C'est une réfutation de cette idée du prémillénialiste. Le mot mille ans se trouve dans la Bible trois fois. se trouve une fois en psaume 90, verset 4, en 2 Pierre 3, verset 8, et en Apocalypse, chapitre 20, verset 2 suivant, verset 6 suivant. C'est-à-dire qu'il y a ici trois fois ou trois différents endroits où cette idée de 1000 ans est mentionnée. Oui, maintenant ce n'est pas trop important, car le psaume 90, verset 4 et 2 Pierre 3, verset 8 parlent uniquement de comment Dieu voit le temps. Un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Ça ne veut pas dire que quand Dieu me dit, voilà, ça va prendre une journée pour faire ça, ça veut dire que ça va prendre 1000 ans. Hein? Mais c'est la façon que lui voit le temps, non pas la façon que lui, il communique le temps vers nous. Il y a des gens qui ont pris ce passage pour vouloir dire, bon, ça veut dire que dans tel et tel passage où on voit un jour, sûrement ça veut dire 1000 ans, parce que pour Dieu, 1000 ans c'est comme un jour, c'est comme 1000 ans. Non, c'est la conception que Dieu a du temps. Est-ce que Pierre veut faire sortir? C'est que Dieu est patient. Lui attend une journée, attend 1000 ans, c'est pareil. Il est en dehors du temps.
Hein?
Exactement, c'est ça l'idée. Comme ça, il ne nous reste qu'une référence, hein, et c'est la seule dans la Bible, hein, de 1000 ans, qui concerne l'idée d'un règne. Car là, c'est marqué et écrit, « Règnera pour 1000 ans ». Comme ça. Il y a un passage dans toute la Bible duquel on a le mot millénium. S'il n'y avait pas d'Apocalypse chapitre 20, personne ne parlerait du millénium, ce serait impossible. Personne ne parlerait du royaume de 1000 ans, ce serait impossible. Qui veut dire que toute théorie du prémillénialisme se repose finalement sur ce passage. Si ce passage tombe, toute la théorie tombe. Si le passage tient, toute la théorie peut tenir. C'est ça. Maintenant, dans l'idée du prémillénialisme, je voudrais le définir ici. Premièrement, l'idée de qu'est-ce que c'est un amillénialiste, c'est un gars, une personne qui croit que le temps présent, c'est le royaume. Que le Christ est venu sur terre pour établir son royaume, qu'il est parti, qu'il était crucifié, et c'est là la victoire sur le péché, et il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est monté au ciel, et que le jour de Pentecôte, il a versé l'Esprit, et que c'était là que le royaume a été établi, et c'est ça le royaume du Christ, et le Christ est roi des rois, et qui règne à partir de ce temps-là, jusqu'à la fin des temps. C'est l'idée ici du règne de 1000 ans. Oui, c'est ça, le règne de 1000 ans des amillénialistes. Maintenant, le règne de 1000 ans des prémillénialistes, c'est que le Christ est venu sur terre, il voulait établir son royaume. Les Juifs n'ont pas voulu accepter un royaume comme ils voulaient, et ils l'ont crucifié. Comme ça, il a établi l'Église provisoirement jusqu'au moment qu'il peut revenir pour établir le royaume comme il avait déjà prévu. Et que ce n'est pas encore arrivé. Dans toutes les théories que je connais du prémillénialiste, ils disent toujours que ce soit une théorie qui a été dite à l'époque, au début des témoins de Jéhovah, au début des adventistes du septième jour, qui disent ça, ils disent, bientôt, c'est prêt. Ils font leur calcul mathématique, ils voient exactement ce qui se passe, nous sommes exactement presque à la fin des temps. Et c'est pour ça qu'avec les calculs qui ont été faits par Ellen G. White, elle a dit, le Seigneur va revenir. Et tous les adventistes étaient prêts. Maintenant, c'est en 1800 quelque chose, le Christ n'est pas venu, mais ça ne fait rien. Les témoins Jéhovah ont fait la même chose, le Christ va venir en 1914, c'est la fin des temps, le bataille d'Armageddon va arriver, et c'est là, le Christ va vaincre, il va avoir ce gros combat, et le règne de 1000 ans, le Christ va régner. 1914, rien s'est passé, on leur demandait qu'est-ce qui s'est passé, vous avez dit qu'il allait revenu, ah oui il est revenu, mais spirituellement et personne ne l'a vu. Bon, formidable. c'est une façon de changer un petit peu les choses. Maintenant, c'est une théorie qui a été poussée énormément depuis 1945, c'est ça, 7, l'établissement de Israël.
Israël 48.
Ouais, voilà. Que d'après certains écrivains, voilà, c'est le commencement de ces prophéties du rétablissement du royaume d'Israël. Et on date tout de ça. Et on prend les chiffres qu'on peut, et déjà c'est la fin des temps, et ça va arriver bientôt. Le seul problème, déjà ce livre, qui est toujours en vente, est déjà quelques problèmes dedans, car il a dit, voilà, d'ici un ou deux ans, trois ou quatre ans, telle chose va arriver, telle chose va arriver, ça n'est pas encore arrivé. Il y a des choses où finalement, il faudrait qu'il republie et fait des petits changements et des corrections pour revoir ses calculs. Et que chaque fois qu'on revoit ses calculs, on s'aperçoit qu'on s'est trompé de 5 ans ou 10 ans et que voilà, ça va venir. Et on même des passages, une citation directement de la Bible, j'ai vu sur une affiche un jour, Jésus-Christ dit, je viens bientôt. Bon, c'est pareil comme si finalement quelqu'un vient de lui souffler à l'oreille et il a écrit le passage. Mais quand est-ce que Jésus-Christ a dit, je viens bientôt? Ben, c'est écrit dans la Bible. Ben, il a écrit 2000 ans passés, et maintenant c'est le moment de le publier sur une fenêtre, pour dire, sur une vitrine, pour dire, viens, il vient bientôt, dans 5 minutes, 2 heures, 2 ans, 3 ans. Il l'a écrit il y a 2000 ans. Vous trouvez une lettre que moi j'ai écrite à ma femme, j'ai dit, écoute chérie, je viens bientôt. Hein, vous trouvez ça dans 100 ans. Ah ben tiens, Glenn est prêt à arriver. Je suis déjà mort. C'est prendre un passage hors de contexte. Ça c'est ridicule. Bon, en même temps, il n'y a pas tout le monde qui le fait, même parmi les premiers analystes, mais en même temps, j'ai des problèmes même à prononcer ce mot-là. Mais ceux qui disent que le règne n'est pas arrivé. Bon, je voudrais ici regarder certaines idées qui vont entre les deux idées. Le prémillénialiste dit que les prophéties de l'Ancien Testament concernant Israël devraient être tout pris d'une façon littérale, physique si vous voulez, et qu'il y aurait un véritable rétablissement d'un royaume terrestre sur le trône de David. Et tous les prophéties qu'on voit de l'avènement du Messie doivent être pris comme ça. Ceux qui parlent de ça, mettons d'autres passages qui parlent du fait de l'esprit, de garder les commandements, des choses comme ça, ça on ne les prend pas trop, parce que ça c'est un peu mis à part. Ici, dans ces prophéties aussi, il faut bien comprendre le système de compréhension des Juifs, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la façon qu'ils écrivaient, il faut comprendre leur littérature. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, ça ne fait rien. On arrive avec un énorme problème dans le prémillénialisme, et c'est sur ça qu'on veut regarder maintenant. C'est que il arrive cette idée que le Messie vient pour établir le royaume. Bon, le Messie arrive, il n'a pas établi le royaume. Ben, il a raté son coup. Et pour Dieu de rater son coup, c'est vraiment un problème énorme. Et c'est même dit parmi les commentaires dans le bouquin prémillénialiste que la pendule prophétique s'est arrêtée à la mort du Christ et ne va pas recommencer jusqu'à vers la fin des temps. Maintenant, ça me crée pour moi un problème, hein? Voici Dieu qui donne toutes les prophéties, vous regardez Daniel, au temps du quatrième royaume, le Messie va venir, et il va faire ça, la grande statue va venir, ça, et tout à coup le Messie arrive, paf, il arrive, le Messie est mort, raté son coup, on arrête la pendule prophétique pour 2000 ans, 2000 ans de vide. L'Église c'est quoi? C'est un bouche-trou. Et c'est finalement ça quand on regarde le prémillénialisme. Le ciel? Ben ça, il faut attendre encore 1000 ans avant d'y arriver. d'après les théories. Parce que l'éternité va arriver 1000 ans après l'arrivée du Christ. Vous avez plusieurs problèmes comme ça. Maintenant, tous les passages du royaume maintenant qui se trouvent dans le livre des évangiles, dans les évangiles, où on dit par Jean-Baptiste, le royaume est proche, préparez-vous, c'est prêt à arriver, c'est un tas de mensonges. Ça, on est obligé de dire, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment proche? Oui, mais c'était proche dans un sens, mais c'était pas vraiment proche. Ben, c'est proche ou c'est pas proche. Et pour moi, 2000 ans, c'est pas proche. Et quand Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde, qu'est-ce que je vais faire avec ce passage? Je ne crois pas qu'il le cite, ce passage. Quand Jésus a dit, le royaume est parmi vous, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Quand Paul nous a dit en Colossiens qu'il nous a ajouté dans son royaume, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, la meilleure chose, c'est de ne pas y toucher. Hein? On ne cite pas ces passages-là, on y passe, on n'a pas de problème. Mais ils sont là. Ou d'autres ont essayé de dire, oui, mais il y a une distinction entre le royaume du ciel, le royaume et le royaume de mon père. Et finalement, on arrive à combien de royaumes? Combien de royaumes ont été prédits dans l'Ancien Testament? Combien de royaumes Israël attendait? Le royaume. Et ça arrive toujours avec ce problème ici. Bon. Regardons un petit peu ce passage de chapitre 20 de l'Apocalypse. Maintenant, allons dire quelques petites choses ici sur l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un livre difficile à comprendre. L'Apocalypse, c'est un livre imagé. La première fois que vous le lisez, il y a des dragons, il y a des grosses bêtes, il y a des sept cornes sur la tête, il y a une grosse prostituée qui se promène sur une grosse bête, il y a une bête féroce qui ressemble à je ne sais pas quoi, vraiment des trucs incompréhensibles, il y a quatre chevaux, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Toutes sortes de chiffres qui reviennent, et là la première impression, on me dit mais qu'est-ce qu'il a écrit, c'est pas logique. Mais en deuxième fois qu'on le lit, il dit oui, c'est bien logique, parce qu'on voit le système de détaillement, les chiffres, l'équilibre qui donne, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de poétique et de profond dans ce qu'il a écrit, mais on ne comprend pas. Comme ça, on trouve le symbolisme qu'on veut, et on dit, ah voilà, j'ai trouvé la clé. Marque de la bête, 666. Bon, on prend les chiffres romains et on ajoute ça, et on prend leurs valeurs numériques et on les ajoute ensemble à 666, et voilà, on a découvert que c'est tel et tel pape, on a découvert que c'est telle et telle autre personne, et comme quelqu'un a dit, il y a tant de bêtes qu'il y a d'interpréteurs. Et finalement, je ne crois pas que le chiffre a été écrit pour que ceux qui étaient très forts en maths pourraient vraiment se défouler dans le livre. Ce n'est pas du tout l'idée ici. Et que c'était uniquement les mathématiciens qui peuvent découvrir qui est le 666. Maintenant, disons que je parlais à des politiciens. Et je voulais leur donner quelque chose imagé. Et je leur dis, vous savez, il y avait un homme. Un homme qui était assez fort. Mais il n'était pas le plus fort dans son pays. Et c'était un homme très bien connu. Et il était connu parce qu'à la main, il tenait une rose. Il avait toujours une rose dans la main. Et en plus, il le tenait dans la main gauche. Mais le plus fort du pays était à sa droite. Mais il a réussi à vaincre celui à sa droite pour que celui qui a la rose peut prendre puissance sur le pays. Bon, qu'est-ce que vous avez compris de ça? Que les socialistes ont gagné l'élection. C'est exactement ça. Si je parle aux politiciens, rose, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on sait ce que c'est, on a tout vu ça, les socialistes. C'est bien les socialistes qui ont pris... Ouais, je ne me suis pas trompé, au moins. Hein? Voilà. Parce que c'est sur cassette et... Ah ouais. Bon. Maintenant, si je raconte cette histoire à quelqu'un qui ne connaît rien des politiques français, une rose. Rose, bon, ça symbolise la douceur. C'était sûrement quelqu'un qui était très doux, très artistique. Et là, il a vaincu sûrement, et en plus, il était sûrement gaucher. Hein? Ben non. Il suffit de connaître les symboles. Une fois que vous connaissez les symboles, c'est clair. Et c'est la même chose pour l'Apocalypse. Mais où allez-vous trouver les symboles? Dans ce livre-là? Non. Vous n'allez pas le trouver là. Vous allez le trouver dans ce livre-là, la Bible. Vous allez lire tout votre Ancien Testament et vous allez souligner chaque fois que vous voyez un symbole quelconque qui s'accorde avec l'Apocalypse. Comme ça, vous arrivez à un verset de l'Apocalypse, c'est quatre chevaux. Vous allez lire tout votre Ancien Testament, vous allez trouver quatre chevaux. Ah, voilà, je les ai trouvés. Vous allez voir ce que ça symbolise. Parce qu'il n'y a qu'un endroit que je connais dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, où il y a quatre chevaux. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose de plus simple que ça, parce que ça va vous prendre un temps vraiment difficile, combien de temps que ça va vous prendre Il suffit de faire ce que les gens du 1er siècle ont fait, convertir des gens qui connaissaient l'Ancien Testament. Et dans chaque communauté à l'époque, il y avait des gens qui étaient convertis du judaïsme. Et en plus, les passages qu'ils connaissaient le mieux, c'était ceux qui étaient les passages imagés, parce que c'est ceux qui parlaient du Messie. Comme ça, tout devenait clair. Vous parlez à n'importe quel juif, écoutez, est-ce que vous avez déjà entendu d'une statue avec la tête en or, et après ça, il y a la... Ah oui, oui, je peux vous dire le reste. C'est Daniel. Vers le début, parce que c'était pas en chapitre. Mais il paraît mettre le doigt carrément dessus. Oui, mais, et en plus, celui des... Vous connaissez, il y a un chapitre où il y a une vallée de... Oui, oui, Ézéchiel. Ben, j'ai même pas dit qu'est-ce qu'il y avait dans la vallée. Il ne fait rien, c'est vallée des ossements. On connaissait ces passages, parce que ça parlait du royaume. On attendait le royaume. Et ça, c'est la clé du livre d'Apocalypse. Maintenant, au début du livre d'Apocalypse, il y a ici certaines clés aussi qui nous donnent. C'est difficile à discuter le prémillénialisme parce que finalement, il part de tellement de passages de partout dans la Bible, une bonne partie sont obscures, que finalement, il faut expliquer presque toute la Bible pour être capable de comprendre ça. Et c'est une des raisons pourquoi cette théorie a bien pris parmi les gens qui connaissent leur Bible jusqu'à un certain point, parce que ça va encore dans les passages les plus obscurs et les plus difficiles et les plus imagés. Et ça donne une théorie très intéressante. Après tout, je n'ai pas besoin de quitter la Terre, je reste sur Terre, j'ai tous les trucs matériels, c'est parfait, mouvement écologique avec les arbres, les jardins, on vit en paix, le lion à côté de l'agneau, c'est formidable. J'ai pas envie de quitter la Terre, je suis matérialiste. C'est une bonne théorie pour l'époque. Retour à la nature. On se fait des images de qu'est-ce que c'est ce règne parfait de 1000 ans par terre. Bon. Verset 1 de l'Apocalypse, ce qui était dès le commencement. Excuse-moi, je suis dans les mauvais livres. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Dans 2000 ans, excusez-moi, j'ai mal lu, qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le verset 3, heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est très loin, car le temps est proche. Déjà, vous avez des clés ici pour vous dire, voilà ce que je suis en train de vous dire va arriver bientôt. Ce n'est pas quelque chose de très très loin. À la fin du livre d'Apocalypse, verset 10 du dernier chapitre, chapitre 22, et il me dit, ne scelle point les livres, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le livre de Daniel, on a dit scellé, parce que c'est pas prêt pour arriver. Il y a encore 300 ou 400 ans avant que le Messie vient. Comme ça, il faut sceller. 400 ans, c'est loin. Il faut sceller. Celui-là, il ne faut pas sceller, parce que ça va être beaucoup moins que 400 ans. Le temps est proche. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Voilà ce que Jésus a dit, je viens bientôt. Sauf qu'il est venu bientôt, après qu'il l'a écrit, ou qu'il a menti, ou il y a quelque chose de très obscur dans notre compréhension des choses. Maintenant, si on croit que le Christ est allé au ciel, qu'il est resté là, croisé les mains, et qu'il ne reviendra jamais pour nous aider, qu'il n'est pas là tous les dimanches, qu'il ne va pas amener vengeance sur nos ennemis, qu'il ne va pas diriger dans les choses des hommes, et souvent on a presque cette opinion. On en parle du deuxième avènement du Christ, la deuxième venue du Christ. C'est une phrase qu'on ne trouve pas tellement dans la Bible. L'idée, c'est que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, c'est dit, il viendra comme il est parti. Il y aura un moment où on le verra, littéralement. Mais les passages de l'Ancien Testament, quand Dieu dit, je viens visiter mon peuple, je viens visiter les ennemis, c'était une chose qui arrivait bientôt. Je viens visiter Égypte. C'est une malédiction, une prononciation de jugement, bientôt, qui allait venir, d'une façon spirituelle. Et les Juifs l'avaient compris d'une façon spirituelle, très claire. Bon, chapitre 20 de l'Apocalypse, il est difficile à comprendre. Si vous le lisez, vous allez voir, oui, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. En même temps, il faut bien admettre qu'on ne peut pas prendre le passage littéral. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main. Est-ce que les anges, littéralement, physiquement, avaient une vraie chaîne en fer? Et est-ce qu'il y avait vraiment une clé dans la main? Il saisissait le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il est de la lier pour 1000 ans. Maintenant, si Satan a un corps physique, on peut le lier physiquement. Autrement, il faudra bien dire que c'est quelque chose de spirituel. Il jetait dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui assis furent donnés le pouvoir de juger, et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités. Ce n'est pas des personnes, ça, c'est des âmes. Maintenant, le prémillénialisme veut que ce soit des personnes, ça, littéral, après la résurrection. C'est des âmes de ceux qui étaient décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revenaient à la vie et ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà le règne de 1000 ans. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ouais, quelle salade. Exactement. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Est-ce que vous allez fonder une doctrine sur un passage comme ça? Déjà, comme j'ai dit, c'est le seul endroit dans toute la Bible où le règne de 1000 ans est mentionné. C'est assez obscur. Bon, regardons ce qui n'est pas mentionné. Je crois que ça, c'est important. Parce que si on regarde uniquement ce qui est mentionné, on va tirer conclusion. Mais regardez ce qui n'est pas mentionné. Est-ce que c'est mentionné le deuxième venu du Christ? Non, c'est pas dit ça du tout. Je le vois pas. Est-ce que c'est mentionné une résurrection corporelle? Moi, je ne vois pas ça non plus. Est-ce qu'il mentionne un règne sur la terre? Alors, c'est ça le règne de 1000 ans, c'est sur la terre. Est-ce qu'il y a ici mentionné littéralement le trône de David? Je ne le vois pas. Est-ce qu'il y a ici une mention de Jérusalem ou de Palestine? Car le règne de 1000 ans, Christ va revenir à Jérusalem. Qui va un petit peu contre ce qu'il a dit, parce qu'il a dit à la femme samaritaine, ce sera ni ici ni à Jérusalem qu'on adorera. Est-ce que Christ revient sur la terre dans ce passage? Ça non plus. Combien de choses peut-on mettre dans ce passage? C'est le seul passage qui parle d'un règne de 1000 ans. Il n'y en a pas d'autres dans toute la Bible. Et c'est de là que vous allez avoir le mot millénium, car il n'existe aucun autre endroit où vous pouvez avoir cette théorie du millénium, du règne de 1000 ans. Et là, d'arriver à vouloir fonder toute une théorie, avoir un livre épais comme ça, pour vouloir expliquer,